ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour à tous, c'est Raphaël, vous écoutez le podcast Football Ski, voici le programme. Début mars, nous vous avions proposé une émission spécialement dédiée au CSKA Moscou, adversaire victorieux par ailleurs de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Format identique pour ce 10e podcast, puisque nous nous focaliserons sur une seule et unique équipe, la Russie. Analyse des dernières performances, état des forces en présence, choix tactique, vous saurez tout sur la sélection qui affrontera la France ce mardi à Saint-Pétersbourg. Commençons donc sans plus attendre. Cela fait maintenant près de 2 ans que la Russie se prépare dans la monotonie des matchs amicaux avec un seul objectif, briller lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu sur son sol. L'échéance tant attendue approche à grands pas, les sélections peuvent profiter de la période internationale du mois de mars pour, notamment, travailler leurs automatismes. Et pour les Russes, le programme est plutôt copieux. Sèchement battu par le Brésil vendredi, la Sbornaïa se prépare désormais à recevoir la France mardi à Saint-Pétersbourg. Un match amical qui sera au centre de nos discussions pendant cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 membres de la rédaction de Football Ski, plus précisément 3 membres de la Team Russie. D'un côté, Antoine, qui était déjà avec nous pour parler du CSKA. Salut Antoine.
Salut à tous.
Il y a aussi Robin, également présent dans notre précédente émission. Salut Robin.
Salut Raphaël, salut à tous.
Et puis nous accueillons également Vincent, qui nous avait parlé de la renaissance du Spartak Moscou dans notre podcast de fin d'année. Salut Vincent.
Salut à tous.
Bon, avant tout, je précise que cette émission sera divisée en 2 parties. Nous débrieferons tout d'abord assez largement la rencontre de vendredi, perdue face au Brésil, ce qui nous permettra par ailleurs de mettre en lumière les qualités et les faiblesses de cette équipe russe. Puis, nous nous projetterons vers le match face à la France. Revenons donc tout d'abord sur le premier match amical disputé par la Russie au cours de cette période internationale. C'était vendredi, à Moscou, face au Brésil, avec pour résultat une défaite sans appel, 3-0. Antoine, tu as suivi avec intérêt cette rencontre. Sans entrer dans les détails, quel a été ton ressenti au coup de sifflet final?
C'est une grande déception pour moi, ce match contre le Brésil. La Russie n'a quasiment pas existé. Et la Russie peut surtout remercier son portier Akinfeyev, sans qui le résultat aurait été beaucoup plus lourd. Pour moi, la Russie a déçu à quasiment tous les niveaux, n'a pas existé face à un grand qu'est le Brésil. Donc c'est une défaite qui est très inquiétante en vue de la Coupe du Monde.
Alors ça, c'est un point très important, Antoine, que tu mentionnes. C'est forcément la Coupe du Monde arrive à grands pas maintenant. Les résultats des derniers matchs amicaux n'ont pas forcément été très bons pour la Russie. Mais là, contre le Brésil, c'était le moment pour essayer de faire une belle performance. Et rien n'en a été. Il y aurait pu avoir 4, 5, 6 buts de plus. Et comme tu l'as mentionné, sans Akinfeyev, le score aurait été plus lourd, donc vraiment une contre-performance pour la Russie à maintenant 3 mois de la Coupe du Monde.
Bah moi je sais pas ce que vous avez pensé, mais j'ai trouvé en regardant le match déjà une Sbornaïa extrêmement lente dans ses phases à la fois offensive, alors défensive on n'en parle pas évidemment, mais un milieu de terrain qui dans ses prises de balles, dans ses choix directement tactiques, vraiment dans ses choix offensifs, a du mal à se porter vers l'avant, à tenir la balle. Alors, bon, je comprends bien que face au Brésil en effet c'était compliqué, mais le Brésil non plus n'était pas une première mi-temps franchement limite. Elle était en mode diesel, elle a commencé vraiment très tranquillement, et puis le début de la deuxième mi-temps a montré qu'en fait dès qu'il y a une légère accélération, dès que ça commence à bouger plus vite devant, ça y est, la Sbornaïa n'arrive plus, quoi.
Ah bah ça c'est sûr, c'est dès que le Brésil a accéléré en deuxième mi-temps. Première mi-temps ils se sont chauffés, ils ont un peu géré, mais deuxième mi-temps le Brésil a accéléré. Et là, on a vu que la Russie, elle n'avait pas du tout les moyens pour suivre, ça allait beaucoup trop vite. Et tu parlais du milieu un peu lent, je pense qu'il faut clairement aussi parler de la défense. La Russie a joué hier avec 5 défenseurs. La formation ne me semble pas du tout adaptée aux joueurs qu'elle a. Elle a des bons milieux terrain, alors certains étaient sur le banc hier. Mais avec des joueurs comme Golovin, Glouchakov, ça devrait mieux jouer. Et hier, ça n'a vraiment pas été le cas. Aucune transition, la transition défensive à la transition offensive a été très compliquée tout au long du match, même avec les remplaçants qui sont rentrés en cours de match. Donc vraiment une contre-performance terrible pour la Russie vendredi dernier contre le Brésil.
Moi, j'ai été extrêmement déçu par Golovin, qui nous avait sorti un match magnifique contre l'Olympique Lyonnais et qui n'a pas du tout été au niveau contre le Brésil. On a l'impression qu'il s'est, entre guillemets, abaissé au niveau de ses coéquipiers. Et sur le terrain, c'est vrai que la Russie n'a quasiment jamais réussi à faire plus de 3 passes de suite. Il y a eu un petit moment de mieux quand même quand Zagoev est rentré, ça n'a pas duré. Mais c'est quand même très inquiétant. Le milieu de terrain, c'est quand même un point fort normalement de la Russie. Et là, être totalement à côté de la plaque, c'est quand même très inquiétant.
Golovin, c'est sans doute son plus mauvais match avec le maillot de l'AS Bornaïa. Hier, on l'a vu perdu, complètement dépassé par le milieu brésilien, alors qu'il certes est peut-être l'un des meilleurs milieux au monde, mais quand même, on l'avait vu faire une très belle performance contre l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Là, sa performance hier a été ponctuée en plus d'une faute sur le pénalty qui a entraîné le deuxième but. Donc, c'est un match, alors ça arrive de passer à côté. Mais là, je pense que c'était un bon test pour se mettre au niveau des Brésiliens, et clairement, ça n'a pas été le cas.
Et bon, on parle de Golovin, il faut effectivement mettre en avant sa prestation, qui était clairement en deçà de celle qu'il avait réalisée avec le CSKA contre Lyon, par exemple. Est-ce que c'est son positionnement au milieu de terrain qui peut être sujet à débat, puisqu'il a joué un rôle plutôt de milieu défensif? Qu'est-ce que tu en penses, Vincent?
Absolument d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il ne joue pas au même poste, en effet, avec le CSKA. Et puis, comme toujours, évidemment, les différences entre les clubs, les matchs en championnat, les matchs en Coupe d'Europe et les matchs avec l'AS Bornaïa, c'est totalement différent. Donc, il n'y a pas, évidemment, le même schéma de jeu. Il n'y a pas les mêmes personnes autour de lui. Il n'a pas, évidemment, le même répondant aussi. Donc, il a du mal à trouver ses coéquipiers. Ça pose, évidemment, le problème toujours de l'habitude de jeu. Voilà, ils n'ont pas les automatismes nécessaires. Et ce n'est pas avec, notamment, une défense remaniée à chaque match et une attaque qui a du mal à se trouver. Alors, là, évidemment, il y avait la blessure de Kokorin qui a fait qu'il était absent, et ça change quand même comment les phases offensives, quoi. Et Golovin, dans tout ça, évidemment, il a du mal, quoi. Il a du mal à suivre. Il y a des transmissions qui se font pas. Il y a des appels, qui sont pas servis ou pas au bon moment. Donc voilà, c'est un peu tout de travers. Ouais.
Après Golovin, je lui jetterai pas non plus, je lui mettrai pas toute la responsabilité sur le dos. À côté, on voit un joueur comme Glouchakov qui, pareil, a fait un match très neutre, voire catastrophique. Et Glouchakov, pourtant, lui, a l'expérience, contrairement à Golovin, qui reste quand même très jeune.
Moi, j'ai été surtout très déçu du coaching fait par Tcherchessov. On a bien vu que la Russie était complètement dominée au milieu de terrain, inexistante. Alors, pourquoi mettre Golovin en milieu quasiment récupérateur défensif, alors que c'est un joueur qui est frêle, qui est petit, qui n'a pas du tout le physique pour se battre au milieu de terrain? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, à comprendre déjà la feuille de match de Tcherchessov. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir mis un Hirokin qui est beaucoup plus costaud au milieu de terrain et qui récupère les ballons? C'est un coaching qui est très surprenant et qui est très certainement à revoir pour Tcherchessov.
Ouais, surtout que la technique, surtout que la phase de jeu, évidemment, de la première mi-temps, c'est quoi? C'est du physique, c'est du pressing assez haut. À un moment donné, les Brésiliens se retrouvaient quasiment dans la surface de réparation en train d'essayer de sortir le ballon. C'est du pressing, c'est de la contre-attaque. Donc évidemment, tout ça fait que un joueur technique tel que Golovin, voilà, il a aussi des difficultés. Donc c'est vrai qu'au niveau de la composition d'équipe, bon, Tcherchessov, c'est vrai que c'est pas, il a toujours eu des choix un petit peu bizarres. Donc
là, voilà, je suis un peu d'accord avec toi, Vincent. On parle des choix douteux de Tcherchessov. Clairement, la Russie s'oriente, ça fait plusieurs fois maintenant qu'il joue à 5 derrière. Ça, c'est la formation normalement qui sera privilégiée pour la Coupe du Monde. Mais hier, il s'est passé de Hirokin au milieu. Alors, Smolnikov, Zhirkov sont rentrés en cours de match. Idem pour Dagoyev. Mais je pense qu'il y avait l'occasion de se tester face à une belle équipe du Brésil qui jouait carrément avec ses titulaires, à part Neymar qui était remplacé par Douglas Costa. C'est sans doute l'équipe du Brésil qui commencera dans 3 mois. Et là, il met une équipe un peu mixte. Alors, est-ce qu'il pense qu'il va mettre ce trio quatuor milieu avec Golovin, Glouchakov, Zobnin et Mirantchouk, on ne sait pas trop, mais, Mais c'est vrai qu'il tâtonne et là, il n'y a plus le temps pour tâtonner.
Oui, donc si je récapitule, aucun d'entre vous n'a vraiment été séduit par le système tactique, le choix de Stanislav Tcherchesov.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'était, pour moi, c'était pas le moment de tenter quelque chose de complètement nouveau. Il faut s'appuyer sur une certaine stabilité en vue du mondial. Les derniers amicaux, même si les résultats sont pas là, la Russie a quand même fait un match nul intéressant contre l'Espagne, donc c'était encourageant. Et là, c'est vrai que cette défaite 3-0 contre le Brésil vendredi fait très mal au moral, très mal au foot russe.
Et pas uniquement ce résultat de 3-0, je pense que là, le contenu n'y était vraiment pas. Il y aurait pu avoir 3-0 et quelques occasions, mais hormis quelques percées de Smolov, enfin du duo Smolov-Mirantchuk, et après, avec la rentrée de Zagoyev en deuxième mi-temps, ça s'est un peu amélioré quelques minutes, je l'avais dit Antoine. Mais sinon, c'est dans le contenu du... La Russie a eu du mal à enchaîner 3-4 passes, ce qui est clairement alertant, alors qu'il reste 3 mois avant la Coupe du Monde.
Parlons un petit peu de la défense. Bon, il faut quand même souligner qu'il y a pas mal d'absents dans ce secteur, avec Dikia, Vassine, Mario Fernandez qui peut jouer sur un côté. Robin, qu'as-tu pensé des choix effectués en défense finalement ?
Alors là, tu l'as bien résumé, ils sont un peu décimés, mais mettre 5 défenseurs avec Kombarov, Kudryashov, Kutepov, Granat, Samedov qui est un peu plus rapide, qui peut proposer plus offensivement, mais sinon les quatre autres sont quand même des défenseurs lents, pas très techniques, pas très habiles dans la relance, alors que on a mis un Golovin par exemple, comme on en parlait, plus bas à la récupération. Et ben là, il devrait typiquement avoir plus des meilleures relances pour le servir dans les pieds, pour après se projeter vers l'avant. Et ça, le lien entre les défenseurs et l'attaque et le milieu de terrain ont été pas très bons vendredi lors du match contre le Brésil.
Bah, c'est vrai qu'on a parlé notamment d'une défense ancienne avec Belezovski et Ignashevich. Et on s'aperçoit que même avec les jeunes, Kutiepov ou Kombarov, il est moins jeune évidemment, mais ça reste lourd, quoi. Ça reste une défense vraiment qui a des difficultés physiques, qui se fait prendre en vitesse très rapidement. Ouais, les choix aussi là sont un peu incompréhensibles. Je sais que Sport Express avait présenté une compo type selon eux et puis selon la conférence de presse de Tcherchesov et notamment Kutiepov n'était pas dedans. Donc là, il y a eu des choix de fait contre le Brésil. Je suis franchement pas persuadé, même dans la défense, que ça a été les bons choix aussi.
Moi, je me demande même, avec la défense qu'on a vue vendredi, est-ce que l'ancienne défense Berezovski-Ignashevich n'était peut-être même pas meilleure que ce qu'on a vu vendredi ? Sérieusement, je me demande même si ces trois-là étaient sur le terrain, s'ils n'auraient pas fait mieux que ce qu'on a vu.
Ah, on en est à ce point-là, quand même.
Ouais, je pense que sur ce point-là, Antoine, tu as quand même raison. La défense, même Berezovski-Ignashevich, ce qui prouve quand même le point de l'état actuel de la défense de la Sbornaïa, parce que c'est des joueurs dont on... certes expérimenté, mais dont on n'aurait même plus parlé pour la sélection. Et au final, on se dit bah, peut-être qu'ils seraient meilleurs sur le terrain que ceux qui ont joué vendredi. Donc c'est quand même assez incroyable, alors qu'on est à 3 mois d'une Coupe du Monde. Tcherchesov devrait avoir une équipe type 11, 12, 13 joueurs dans la tête pour qui commenceront contre l'Arabie Saoudite pour le premier match de la Coupe du Monde. C'est sans doute pas le cas. Et quand on voit le match de l'Égypte hier en attaque avec des joueurs rapides comme Salah ou l'Uruguay avec Cavani, Suarez, on se dit que la défense de la Sbornaïa va avoir du mal à la Coupe du Monde, ça c'est sûr.
Après, ils vont se balader, ils se prennent Kutiepov qui se fait lober comme ça sur des passes en hauteur, enfin, c'est juste pas possible, quoi. Tu peux pas tenir. Il y a clairement un niveau international que certains joueurs n'ont pas. Faut le dire tel que c'est, hein. Pour moi, un joueur comme Kutiepov, il n'a pas le niveau international. Il n'a pas un niveau pour jouer avec la Russie en Coupe du Monde. Ça peut peut-être passer contre l'Arabie Saoudite, mais comme tu l'as très bien dit, Robin, voilà, face à des joueurs extrêmement rapides, à des joueurs techniques, ça va être compliqué.
Moi, personnellement, quand j'ai vu le tirage de la Coupe du Monde, je me suis dit, oui, la Russie va être normalement dans les deux premières de son groupe et risque de passer, enfin, va passer en huitième de finale. Mais au vu de ce qui s'est passé vendredi, j'ai peur. J'ai peur que la Russie finisse troisième. L'Égypte est selon moi une équipe à laquelle il faudra se méfier. Et la Russie pourrait passer à la trappe.
Bah ça, c'est un peu des supputations, évidemment, mais quand on voit l'état actuel des équipes, la Russie a reculé dans ce classement des quatre du groupe A, et on voit mal comment cette équipe pourrait vraiment s'améliorer alors qu'il reste que quelques matchs de préparation, sachant que ça fait deux ans qu'ils se préparent à la Coupe du Monde. Alors, on a mentionné un peu les résultats tout à l'heure, ça n'est pas des résultats quand même fameux. Alors, il y a eu un match nul 3-3 contre l'Espagne en novembre dernier qui a été encourageant avec une défaite courte de 1-0 contre l'Argentine, mais avant ça il y avait eu un match nul 1-1 contre l'Iran, une victoire étriquée quand même contre la Corée 4-2. C'est pas des résultats extraordinaires, et quand on voit l'état de forme de l'équipe d'Uruguay et d'Égypte actuelle, on se dit que la Russie va devoir vraiment batailler pour passer en huitième de finale à la Coupe du Monde.
Bon, revenons-en à ce match qui a eu lieu vendredi et évoquons le dernier secteur de jeu dont nous n'avons pas encore parlé, l'attaque. Alexei Mironchuk était en soutien de Fyodor Smolov. Alors Antoine, toi tu es un grand fan de l'attaquant de Krasnodar. Comment est-ce que tu pourrais qualifier sa prestation ?
Ah oui, il a fait ce qu'il a pu. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas... c'est le meilleur attaquant en Russie. Mais bon, face à une défense Miranda, Thiago Silva, enfin, on voit qu'il a pas, c'est difficile pour lui de faire la différence, même si c'est un bon joueur, c'est compliqué pour lui. Il a essayé de faire quelques petits gris-gris, de passer les appels, ça a pas suffi. Donc, après, c'est vrai que contre une équipe, contre l'Arabie Saoudite, contre peut-être même l'Égypte, il arrivera à faire la différence. Après, contre une équipe, contre le Brésil, on voit qu'il y a quand même un monde entre les deux.
La différence aussi pour lui maintenant dans la Sbornaïa, c'est sans doute que l'équipe va plus du tout jouer avec deux pointes, vu que Kokorin est blessé, comme on l'a mentionné avant. Smolov se retrouve tout seul, et en même temps, c'est un numéro 9 qui aime bien prendre les espaces. Et c'est, comme tu l'as dit, Antoine, quand on se retrouve face à Thiago Silva et Miranda, deux joueurs costauds, physiques et en plus rapides, bah, c'est carrément difficile. Et en plus, il n'a pas été très bien servi par le milieu de terrain. Il était scellé, alors il s'est bien battu en première mi-temps. Quelques fois, c'est presque passé. Mais on a vu que dès que le Brésil a augmenté en intensité, il a été moins servi et il a disparu du match.
Oui, Vincent, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, non, là, tout a été dit sur l'aspect offensif. Voilà, c'est compliqué. Le soutien du milieu et comment est lent à venir. Smolov avec Mironchuk, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais en effet, ils peuvent pas tout faire. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi un manque de réalisme quand même aussi sur certains coups. Il aurait pu peut-être y avoir un peu plus de qualité, notamment sur le dernier geste. Mais bon, à ce niveau-là, franchement, c'est compliqué, quoi.
Ouais, puisqu'au final, la Russie a quand même eu 2-3 situations intéressantes. Tu aurais pu y avoir un but au final.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est regrettable, en fait, parce que la première mi-temps, c'est là qu'ils doivent justement faire en sorte de prendre l'avantage. Le Brésil n'est pas si exceptionnel que ça dans cette première mi-temps. Eux aussi, ils bafouillent leur football, etc. On sent qu'ils sont pas dans le rythme. Et c'est à ce moment-là que la Russie aurait dû accélérer et aurait dû, sur ces quelques petites occasions, réussir à marquer. Qu'en aurait-il après, ça, personne ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait mis du baume au cœur. Je pense qu'il y a eu aussi, après le premier but, voilà, il y a eu un coup derrière la tête et puis tout s'est déréglé, quoi.
Bon, la grande question que je me pose quand je regarde la liste qu'a fait Tcherchesov pour ces deux matchs amicaux, c'est qu'est-ce que fait Anton Zabolotny dans cette liste ? Alors oui, il a fait 6 bons mois à Tosno. Déjà, la grande surprise qu'il ait signé au Zénith Saint-Pétersbourg, ça c'est quand même un petit peu incompréhensible. Qu'est-ce que fait Anton Zabolotny dans cette liste ? Pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour être international. Là, Tcherchesov, il s'est privé d'un élément. Alors, il est beaucoup critiqué au pays, je vais parler de Djouba, mais Djouba, ça pourrait être une tour de contrôle. Même, il est grand, il est physique. Alors oui, il n'est pas exceptionnel techniquement, mais dans un match comme contre le Brésil, il peut facilement rivaliser dans les airs avec des joueurs comme Thiago Silva et Miranda. Moi, je ne comprends pas comment Tcherchesov a pu se priver d'un tel joueur, même s'il a fait un cycle aller un peu compliqué, mais là, il est en train de très bien se relancer avec l'Arsenal tout là. Comment on peut se priver de Djouba, qui a quand même une bonne expérience du haut niveau? Ça, c'est quand même assez... moi, ça m'interroge quand même pas mal, ça.
Ça, c'est un bon point que tu mentionnes, Antoine, c'est sûr. Il fait rentrer Zabolotny à la 70e, donc il reste 20 minutes. Et en gros, on comprend avec son changement que c'est la seule solution ou c'est la solution première qu'il privilégie quand il va le remplacer Smolov. Alors que, comme tu l'as dit, Djouba, c'est un joueur qui, en plus, revient en forme, qui a très peu joué avec le Zénith pendant 6 mois, mais là, à l'Arsenal Toula, il commence à jouer, il commence à marquer. Et c'est l'un des seuls joueurs russes en attaque qui a de l'expérience au niveau européen. On se souvient qu'il avait fait des très bonnes prestations avec le Zénith Saint-Pétersbourg il y a quelques années en Ligue des Champions, notamment contre l'Olympique Lyonnais. Et Djouba, c'est le joueur qui pourrait permettre à Smolov aussi de mieux s'exprimer en attaque. Alors clairement, il faudra que le milieu de terrain fasse mieux pour mettre dans de meilleures dispositions ce duo en attaque. Mais Smolov tout seul en pointe, moi je considère qu'il est un peu trop tendre. Mais avec un Djouba, ça lui permettrait de se délaisser de cette responsabilité de devoir bouger la défense adverse, etc. Ça serait Djouba qui ferait ça. Et Smolov, lui, pourrait prendre la profondeur et tourner autour d'un Djouba. Et là, ça pourrait être intéressant.
Ah ouais, Robin, t'as tout dit là. T'as absolument tout dit. Je suis absolument d'accord avec toi. Djouba en rôle de vraiment qui fixe la défense. Et puis comment Smolov qui bouge autour. À mon avis, c'est la solution. Maintenant, comme a dit Antoine, Djouba en Russie, il est extrêmement critiqué. Il est critiquable aussi.
Mais pourtant, il ramène Zabolotny qui, lui, n'a aucune expérience à ce niveau-là. Ok, il a marqué une petite dizaine de buts avec Tosno, qui en plus n'est pas bien dans le championnat russe, donc c'est une belle performance. Il signe au Zénith Saint-Pétersbourg et il a du temps de jeu là depuis 2-3 mois, enfin depuis la reprise en février. Mais je vois pas comment le débat pourrait exister. Alors Djouba n'a pas forcément tout le temps fait des bons matchs avec la Zbornaïa, mais actuellement c'est une arme que Tcherchesov ne pourrait pas, selon moi, ne devrait pas laisser sur le côté.
Bah, il a un style de jeu, en tout cas, que la Sborna a besoin et que actuellement, en effet, on n'a pas. Ça, c'est sûr.
Bon, en tout cas, nous avons ouvert le débat Djouba pour ou contre un retour en sélection. Ça fera peut-être l'objet d'un futur podcast, qui sait. Bon, nous allons clore cette première partie sur le débriefing concernant le match face au Brésil. J'ai bien compris que vos analyses étaient assez pessimistes et faisaient part d'une certaine inquiétude par rapport au niveau de jeu de cette équipe. Et maintenant, basculons sur le prochain match face à l'équipe de France. Vincent, toi, dans ce contexte-là, qu'attends-tu? Qu'espères-tu de ce match?
Bah, clairement une réaction déjà dans notamment au milieu de terrain. Il faut absolument qu'on voit quand même un semblant de jeu. Alors, on en a vu notamment contre le Brésil des phases de jeu où voilà, à une touche de balle, ça va bien vers l'avant et ça utilise les latéraux pour monter. Donc Il y a possibilité, j'arrive pas à croire quand même que cette équipe ne puisse pas développer le moindre jeu. Donc il y a du potentiel, il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités aussi et qui doivent pousser la Sborna vers le haut, très clairement. Maintenant, défensivement, bah, il faut faire vraiment faut discuter clairement, mettre les choses sur la table et choisir vraiment les joueurs parce que là aussi en face, alors bon, l'équipe de France a perdu contre la Colombie vendredi dernier, mais ça va très vite, hein, ça va très très vite en face, ça joue rapide, c'est efficace, et Hakim Fiaf ne sera pas non plus le sauveur lors de tous les matchs.
Je suis d'accord avec toi, Vincent, là je pense que forcément on exige même une réaction de la Sbornaïa à domicile, mais... quand je vois, alors certes, l'équipe de France a pêché en deuxième mi-temps contre la Colombie vendredi dernier, mais j'ai du mal à m'imaginer la Russie faire mieux que ce qu'elle n'a fait vendredi contre le Brésil, alors que la France aussi a du potentiel en attaque, ça va très vite. L'avantage de jouer avec 5 défenseurs, par exemple, contre le Brésil, c'est qu'on pouvait espérer mieux cerner Gabriel Jesus en attaque, parce qu'il n'y a qu'une pointe, mais la France joue avec deux pointes devant. Alors peut-être quelques changements seront effectués par Didier Deschamps, mais ça on n'en est pas sûr. En 4-4-2, il y a quatre joueurs offensifs qui vont très vite. Là, la défense de la Russie, elle va être mise à contribution et ça sera l'ultime test avant la Coupe du Monde même, parce que après, ça sera deux matchs, deux ou trois matchs, peut-être un autre match amical contre l'Autriche et la Turquie en juin avant la Coupe du Monde. Donc là, ce sera le dernier test pour la défense et l'équipe en entier.
Alors là, c'est sûr que pour le match contre la France, niveau vitesse, ça va être similaire. Après, il y a un point qui pourrait être important à exploiter pour la Russie, c'est les côtés. On sait que les latéraux, c'est pas forcément le point fort de l'équipe de France. Donc si là, on a un autre système de jeu qui permet de plus exploiter les ailes et d'aller embêter les latéraux, ça pourrait être un point intéressant pour la Russie.
Le système actuel fait que normalement, les latéraux devraient poser des problèmes en jouant à 5. Kombarov et Samedov qui ont débuté vendredi, alors est-ce qu'ils vont être reconduits ou pas? Est-ce que Zhirkov, Smolnikov vont intégrer le 11 de départ? Peut-être. Mais l'idée de Tcherchesov, ça devrait être de vraiment mettre la pression sur les latéraux français avec ces deux latéraux russes sur les côtés. Est-ce que ça va être fait ou pas? Mais comme tu l'as dit, Antoine, je pense que c'est une bonne piste de réflexion pour la Russie. Parce que c'est peut-être un des axes dans lequel l'équipe de France pêche encore.
Ok, et bon, concrètement, j'avais envie de vous demander où devront appuyer les Français pour faire mal à cette équipe. On y a un petit peu répondu tout au long de l'émission. Défensivement, la Russie est assez lente, donc des attaques placées, des attaques rapides, normalement, ça devrait faire la différence. C'est bien ça, Antoine ?
Je pense que la France peut faire mal à la Russie absolument partout. Hein. S'ils jouent leur jeu habituel, s'ils sont à un bon niveau autre que ce qu'on a pu voir vendredi soir, il y aura absolument aucun souci pour eux. Il va falloir bien cerner le milieu de terrain, il va bien falloir placer les attaques, ne pas trop en faire, et pour moi la France va s'imposer facilement mardi soir.
Bah, c'est sûr que s'ils ont le niveau qu'ils ont eu vendredi dernier, durant les 20 premières minutes où ils ont mangé la Colombie très clairement, la Russie va clairement souffrir. Il faut être solide, quoi. Faut vraiment y croire. Je pense que évidemment l'impact physique est important, mais face à une équipe comme la France qui met justement cet impact physique aussi, ça risque compliqué. Maintenant, on dit toujours que jouer devant son public, ça arrange des choses. Est-ce que ce sera mieux qu'à Loujniki? On l'espère.
Moi, je m'attends quand même à quelques changements de la part de Tcherchesov. Alors. Didier Deschamps de son côté en fera sans doute aussi. Mais je pense que Tcherchesov va vouloir intégrer, je disais tout à l'heure, Smolnikov, Zhirkov, Zagoyev, c'est quand même trois joueurs qui, eux, ont l'expérience du très haut niveau. Est-ce que ça pourrait permettre à la Russie de développer un peu plus son jeu? Je pense que c'est possible. Alors forcément, il y aura une forte concurrence avec l'équipe de France. Ça ne sera pas facile. Mais je pense qu'en intégrant ces trois joueurs dans le 11 de départ, la Russie pourrait gagner en contrôle aussi, parce qu'on sait que la France aime bien maintenant garder le ballon. La Russie, c'est plutôt une position défensive. Mais avec des joueurs comme Zagoyev et sur les côtés Smolnikov, Zhirkov, je vois bien un peu plus d'animation au milieu de terrain, ce qui pourrait permettre à la Russie de mieux jouer.
Robin, tu parles de changement de joueur. Est-ce que tu verrais aussi un changement de système ou ça te semble tout à fait impossible?
Alors moi, je ne vois pas Tcherchesov changer parce que maintenant, ça fait 2-3 fois que la Russie joue dans ce système-là. Et même avec les absences en défense dont on a parlé, la Russie... Moi, je vois Tcherchesov jouer avec 5 défenseurs à la Coupe du Monde, donc peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il va vraiment changer s'il le fait mardi et que ça ne marche pas? Mais je le vois s'appuyer sur ce système-là. Et c'est pour ça que je parle de Zhirkov et de Smolnikov sur les côtés, parce que je pense que c'est les deux joueurs idéaux pour ce système, avec 5 défenseurs, mais avec 2 latéraux un peu ailiers. Mais c'est vrai que quand eux ne sont pas là et pas sur le terrain, les bénéfices de ce système sont moindres, c'est sûr.
Bah, c'est le truc, c'est qu'on n'a plus trop le temps de faire des tests. Les schémas auraient dû être testés bien avant. Il y a eu 2 ans pour le faire, et qu'en est-il actuellement? Pas grand-chose. Je pense qu'évidemment, ce 5-3-2 va être peut-être réutilisé plus contre vraiment des équipes voilà, type Brésil, France, des équipes vraiment puissantes, physiques, rapides. Après, qu'en est-il contre les autres équipes? Il va bien falloir faire le jeu, en effet. Et là, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Zobnin aussi, qui a fait quand même un match à peu près correct. Voilà, il faut se poser sur ces joueurs, des joueurs qui vont vite, des joueurs qui sont en gros techniques, et il faut marquer des buts, quoi.
Ce match se déroulera au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, une enceinte flambant neuve mais qui a mis 10 ans à sortir de terre. Robin, donc toi tu as vécu à Saint-Pétersbourg, est-ce que tu confirmes ces informations?
Alors oui, tout à fait, ça a pris très longtemps, même trop longtemps, c'est au final le stade le plus cher au monde. 10 ans de construction, c'est énorme. Alors il y a eu des problèmes parce que là où le stade a été conçu, donc sur l'île Krestovski, d'où le nom du stade, c'est une île... Donc typiquement, il y a beaucoup d'eau autour. Saint-Pétersbourg, on le rappelle, est fondé sur des marécages. Donc c'est compliqué de construire des grosses enceintes comme un stade de foot de 65 000 places. C'est le premier match, enfin je crois que c'est le premier match de la Zbornaïa là-bas. Ça va être intéressant. Moi, typiquement, quand j'étais en Russie, je n'ai fait que le Petrovski, l'ancien stade du Zénith Saint-Pétersbourg. Maintenant, le Zénith remplit le stade Krestovski toutes les deux semaines, donc c'est intéressant aussi de voir que les Russes s'y mettent un peu, ce qui est assez surprenant, sachant qu'avant le Zénith remplissait très peu le stade Petrovski. Donc voilà, c'est un très beau stade, lieu d'ailleurs d'une des demi-finales de la Coupe du Monde, donc je pense qu'il y a tout pour un bon match mardi soir.
Après, messieurs, je vous conseille, si vous appréciez ce stade de Saint-Pétersbourg, d'aller lire l'article de Julien Duès sur SoFoot, qui avait écrit un article, une traduction d'un article qui avait été écrit sur les relations entre les ouvriers nord-coréens qui ont travaillé sur la création de ce stade et le sang nord-coréen qui est dans ce stade. Parce qu'en effet, c'est un stade qui a mis énormément de temps à se faire construire dans des conditions de sécurité qui étaient parfois totalement déplorables pour les employés qui ont construit cette enceinte.
Julien Duez, qui écrit aussi pour Footballski, qu'on salue au passage. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose?
En effet, le stade est magnifique. Hein. Quand on regarde la RPL, voilà, on voit quand le Zénith y joue, c'est vrai qu'il est top. La sonorité du, je crois, est fantastique aussi. Il est très grand, il est spacieux. Enfin, il est vraiment bien. En effet, c'est très très bien d'ailleurs que la France puisse y jouer. Ça donne une bonne image et puis c'est plutôt bien. Après, sur la construction, c'est à la russe, quoi, hein. On sait très bien comment fonctionne le pays, quelles sont les difficultés en termes de construction, etc. Bon, ça concerne le stade Krestovski, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres choses.
Un petit point un petit peu pratique pour les supporters français qui se rendent demain au stade Krestovski. Maintenant, le stade est accessible par le métro. Donc, la station s'appelle Krestovskaya. Elle vient d'être inaugurée. Et c'est accessible depuis le centre. C'est très rapide. Donc, je vous conseille le métro si vous allez au stade pour voir le match.
Très bien, c'est noté. Et est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot concernant la pelouse? On se souvient, les supporters lyonnais surtout se souviennent de l'état assez médiocre de la pelouse de la VEB Arena lors du match face au CSKA Moscou. Est-ce que vous qui suivez la RPL pouvez nous garantir que cette pelouse du côté de Saint-Pétersbourg sera d'une meilleure qualité?
Oui, je pense qu'elle sera meilleure. Elle a été refaite, donc normalement, elle sera opérationnelle pour le match de demain.
Oui, et puis l'avantage à Saint-Pétersbourg, c'est que le toit se ferme. Donc il n'y aura pas de soucis comme on a pu avoir à Moscou. Il y aura une belle pelouse. Donc de quoi avoir du beau jeu mardi soir.
Ça marche. Et bon, enfin, pour terminer, le petit jeu des pronostics. Tout simplement, je vous demandais à tour de rôle de me donner le score que vous voyez pour ce match. On va commencer avec toi, Antoine.
Allez, 2-1 pour la France. Espérons un petit but de Smolov quand même pour un petit point positif.
Ça marche. À ton tour, Robin.
Alors moi, je vois 3-1 pour la France avec un but de Dzagoïev pour les Russes.
Et Vincent?
Allez, moi, je vois un 2-0. Mais c'est un peu pessimiste, en effet.
Oui, c'est pessimiste. Bon, vous ne voyez pas non plus une large victoire des Bleus. Espérons effectivement que la Russie soit en mesure de montrer un visage un peu plus séduisant que celui qu'elle a montré face au Brésil. Écoutez, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons bien pris en note toutes ces informations. C'était très intéressant. Je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt.
Merci.
Salut. Salut.
C'est la fin de ce 10e podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.